Alors, nous recevons ce matin une personne que peut-être que vous connaissez. Elle s'appelle
Laurence
Vallamé. Tu vas augmenter le micro.
Oui.
Ça va bien, Laurence?
Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu, merci.
Alors, je suis désolé, tu viens d'arriver en Martinique.
Oui, c'est ça, hein, je suis arrivée hier, fraîchement très bien accueillie par la pluie abondante.
Ouais, c'est bon signe ou bien...
Oui, c'est bien, c'est bon signe, c'est bon signe.
D'accord. Ça fait quel effet de se retrouver en Martinique ces jours-ci?
Eh bien, c'est toujours une joie pour moi de revenir chez moi, hein, en
Ah
Martinique.
ouais.
C'est une grâce et c'est une grâce que le Seigneur me fait à chaque fois que je reviens parce
Ah
qu'il
ouais.
y a toujours des choses à faire.
Y a beaucoup de boulot.
Oui, il y a toujours, dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours des choses à faire.
Ah oui.
Et donc, c'est toujours avec joie que je fais ce que le Seigneur me conduit à faire.
La Bible dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers.
Exactement, c'est ça.
Qu'est-ce que tu comprends de ce
Eh
verset?
bien, ça veut dire que les ouvriers qui sont là, qui sont positionnés et qui voient la moisson, doivent mettre la main à la pâte parce qu'effectivement, il y a à
Oui.
faire et que le Seigneur, quand il nous équipe, c'est pour qu'on puisse travailler, ce n'est pas pour rester dormir chez soi. Donc, effectivement, eh bien, le Seigneur, la parole dit aussi que tes mains fassent tout ce que tu trouves à faire. Et donc, l'œuvre du Seigneur, ce sont aussi les choses qu'on trouve à faire et les choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Donc, toujours contente et bénie
Ah ouais.
à chaque fois que je peux encourager, exhorter, et donc c'est ma part d'ailleurs en tant que pasteur de le faire.
De faire, d'encourager, exhorter. Est-ce que c'est facile
Est-ce que c'est facile?
d'exhorter, d'encourager?
Bien oui,
Est-ce qu'il y
alors
a un besoin réel?
je dirais oui, c'est facile dans le sens où le Seigneur dit que mon joug est doux. Mon fardeau léger. Donc, vu que c'est le joug du Seigneur qu'on porte, alors il est facile, entre guillemets.
Ah
Maintenant,
oui.
c'est un joug. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même le porter. Mais, en tout cas, exhorter, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, hein, notamment lorsque, en tant que pasteur, on peut, et d'ailleurs, tout simplement, lorsqu'on marche avec le Seigneur, en tant que chrétien,
Ah oui.
on a cette mission d'exhorter aussi nos frères, nos sœurs par une parole. Ce n'est pas forcément quand on prend un micro, qu'on monte
Oui.
sur l'estrade qu'on exhorte. C'est
Oui.
lorsque on est au contact de quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de recevoir une parole, et c'est le Seigneur qui renouvelle sa parole en nous pour qu'on puisse aussi l'apporter à ceux qui ont besoin et puis apporter une parole à propos parce que c'est ça qui est important.
D'accord. Laurence, tu vis là-bas depuis combien de temps?
Ça fait 5 ans que mon époux et moi et nos enfants, donc nos 8 enfants, nous sommes
Huit
rentrés.
enfants.
Oui.
Ah, ça fait 10 ans tout. Vous êtes 10 ans tout.
Voilà, c'est ça. Nous
Ah
sommes une
ouais.
très grande famille, par la grâce de
Une belle
Dieu.
tribu.
Oui.
Combien de filles, combien de garçons?
On a 4 filles et 4 garçons.
D'accord.
Voilà. Qui
D'accord.
ont entre le plus grand va avoir 19 ans et le dernier a 4 ans.
4 ans. Donc, tu disais que vous êtes parti là-bas pour des raisons professionnelles?
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait nous étions donc en Martinique, on a vécu 5 ans ici, et puis là, ça fait 4 ans qu'on est reparti sur l'Île-de-France,
Ah oui.
essentiellement effectivement pour des raisons professionnelles.
Oui.
Et puis, le Seigneur nous conduit, donc on avance comme ça.
Est-ce que ça a été facile de quitter la Martinique avec vos 8 enfants?
S'il y a des challenges, il y a des challenges. Hein. Déjà, il y en avait dans le fait de vivre ici, parce on était aussi ici pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, avec les challenges aussi que ça représente. Et puis, on connaît la conjoncture ici, la vie chère,
Oui,
voilà,
oui.
etc. Pas toujours simple quand on est une grande famille. Et pour repartir, c'était pareil. Hein, il fallait de l'organisation. Il faut toujours une grande organisation quand on a une grande famille.
Ah
Déjà,
oui.
organisation pour toutes les familles, mais c'est vraie grande organisation pour notre famille à nous et donc il faut anticiper un peu tout et puis c'est une période qui n'est pas toujours simple hein. De toute façon un déménagement c'est une période de bouleversement donc
Oui.
il a fallu gérer, il a fallu s'organiser et puis finalement
Et
on
comment
a
les enfants ont vécu tout cela, ce bouleversement, comme tu dis?
Pour les enfants, on va dire qu'il y a deux choses. Il y a le côté, effectivement, où ce n'est pas toujours évident. Lorsqu'il y a du changement, les enfants ne sont pas forcément toujours à l'aise avec ça, mais en même temps, ils ont une grande capacité à s'adapter et à pouvoir en fait s'adapter aux différentes situations. Donc, d'un côté, il faut leur parler, il faut leur expliquer les choses et puis bien les accompagner pour qu'ils puissent aussi vivre le moins, on va dire, difficilement ce type de transition parce qu'il faut quitter un lieu, aller dans un autre. Ça veut dire de nouveaux amis, ça veut dire de nouvelles habitudes, etc. Et effectivement, ça peut être déstabilisant pour eux. Donc, chez nous, ce qui prime, c'est d'abord la communication, le fait de pouvoir parler, de
Oui.
pouvoir aussi écouter les
Oui.
enfants pour savoir, parce qu'à certains moments, moment ils ont besoin de parler aussi, de dire que ça ne va pas, voilà, j'ai pas d'amis dans cette nouvelle école, je me sens triste, etc. Il faut que l'enfant puisse s'exprimer aussi. Donc voilà, de l'écoute et de la communication, et ça permet d'aider les enfants en fait à passer le cap.
D'accord, je vois que vous êtes très nombreux à écouter Laurence ce matin. Alors Laurence, parle-nous un peu de ta conversion, comment tu as connu le Christ et dans quelles conditions?
Alors moi je suis née dans une famille chrétienne, j'ai été élevée dans la foi chrétienne et jusqu'à mon adolescence donc je voyais la foi plutôt comme quelque chose, alors je sentais que j'aimais le Seigneur et que lorsqu'on me parlait de lui ça faisait écho en moi, mais d'un autre côté ce que je comprenais de la foi comme on me l'avait enseigné c'était qu'il y avait surtout beaucoup de règles à respecter et beaucoup d'interdits et donc moi ça résonnait en moi comme je ne peux pas faire ce que
blocage.
Je veux. Voilà, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis coincée et c'était un frein dans beaucoup de choses pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le vivais. Et puis donc j'ai grandi comme ça, j'ai grandi donc ici en Martinique, je suis partie bien contre mon gré parce que j'ai suivi ma mère donc en France et donc ça c'est vrai que c'est déjà ça a créé une première rupture avec la vie que je pouvais avoir ici comme beaucoup d'adolescents, hein, une vie comme les adolescents le vivent un peu. Et puis arrivé donc là-bas, j'ai commencé en fait en étant isolée de mes amis, des habitudes, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir. Mais c'est quoi vraiment le sens de ma vie, de ma foi, etc.
Et tu avais quel âge?
Là j'avais 17 ans.
17 ans, Et on donc, peut avoir déjà des réflexions comme ça à 17 ans.
Ah ben en tout cas je les avais, je les avais parce que c'est vrai aussi que les expériences de vie font que parfois on grandit très vite, très vite. Et c'était mon cas. Et donc à 17 ans, je commençais à dire au Seigneur. Bon, pourtant, alors que je ne pensais pas du tout au mariage, mes parents sont divorcés, donc je n'avais pas, tu vois, je n'avais pas en fait
cette point de repère.
À ce niveau-là, non, je n'avais pas non plus d'aspiration à me dire que, comme certaines personnes, moi je veux me marier jeune, etc.
La belle robe blanche, tout ça, voilà. C'était pas encore.
Pas du tout. Ce n'était pas du tout dans ce que j'avais projeté. Mais le Seigneur me mettait ça à cœur. Donc, ce qui fait que à ce moment-là. J'ai commencé à prier tous les jours. Je priais, je demandais au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas avoir de petits copains, je veux que tu me donnes mon époux. Et donc la prochaine personne que je vais rencontrer, ce sera mon époux. Et j'ai commencé à faire cette prière tous les jours avec le peu que je connaissais du Seigneur, jusqu'à ce que je rencontre effectivement un jeune homme à l'église qui était pianiste et qui venait pour ses études, qui venait là où j'habitais, donc à Lyon. Et puis on a commencé à échanger et il se trouve que ce jeune homme est mon époux depuis maintenant 20 ans. 21 ans qu'on est ensemble. 21 ans qu'on est mariés, pardon, et 25 ans donc qu'on est ensemble. À ce moment-là, déjà, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé, ça m'a amené de la stabilité. Et puis j'ai compris que le Seigneur avait aussi un plan pour moi parce que mon enfance n'avait pas été simple. J'avais vécu des traumatismes, j'avais aussi vécu aussi les moments difficiles quand on grandit dans une famille monoparentale puisque ma mère était seule à nous élever avec beaucoup de courage.
Et vous étiez combien?
On était 5 frères et sœurs.
5 frères et sœurs.
Et donc on a d'ailleurs 4 filles et un garçon. Que je salue d'ailleurs mes frères et sœurs ainsi que ma chère maman et mon papa s'il m'écoute. Donc on a grandi dans j'ai grandi dans ce contexte pas toujours évident mais toujours bien structuré quand même par tout ce que ma mère faisait pour nous aider aussi à pouvoir avoir la meilleure structure possible. Donc on a été bien éduqués,
bien encadrés.
Mais c'est vrai que des traumatismes sont quand même ressortis et puis on a avancé comme ça avec mon époux jusqu'à ce qu'on ait notre premier enfant.
Ça a été une grande joie.
Oui, c'était une grande joie, un enfant qui était très attendu.
Grosse expérience.
Voilà, un enfant qui était très attendu, sachant que les médecins m'avaient déjà dit, écoutez madame, ça va être compliqué pour vous d'avoir des enfants. C'est chaud. Et donc, mais ce n'était pas du tout le diagnostic du Seigneur.
D'accord.
La preuve, puisqu'on a 8 enfants, comme je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, ce premier enfant très attendu, qui nous a rempli de beaucoup de joie.
C'était le fils.
C'était un fils. C'est toujours un fils, d'ailleurs, notre premier fils. Et donc, qui va avoir 19 ans, comme je le disais. Et donc, cette période-là, où cet enfant est arrivé, a aussi produit un bouleversement en moi. Parce que lorsqu'on donne la vie et que on voit qu'on met un enfant au monde, on est sensible à qu'est-ce qu'il va devenir? Comment je vais pouvoir accompagner cet enfant à pouvoir grandir? Et qu'est-ce que j'ai comme ressources pour pouvoir l'aider à grandir? Et comment je vais lui apporter la protection dont il a besoin? Parce que finalement, on voit cet être-là vulnérable. Et on se dit que comment en tant que maman...
C'est à la hauteur.
Comment?
Est-ce que tu seras à la hauteur?
Voilà. Est-ce que tu seras à la hauteur? Et comme face à ce monde-là, qui est un monde quand même de danger, comment tu vas pouvoir l'aider? Et à ce moment-là, moi, c'est comme ça que je le vivais, malgré le fait que je crois en Dieu. Mais je ne sentais pas que j'avais...
les armes qu'il faut, les moyens qu'il faut.
Voilà, c'est ça, pour pouvoir assurer, entre guillemets, la protection de cet enfant. Et puis d'un côté, il y avait mon époux donc qui était aussi, donc on allait à l'église, mais l'église n'était pas réveillée, donc lui-même commençait à se poser des questions. Mais finalement, notre foi, qu'est-ce qu'elle produit? Comment se fait-il que quand on prie, on ne voit pas des malades être guéris, on ne voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre comme le dit la parole? Et donc lui était dans une recherche. Et dans cette recherche, moi je le regardais de loin faire cette recherche, en étant sceptique.
Sceptique.
Sceptique dans le sens où nous, dans notre éducation chrétienne, on nous avait enseigné en étant petit que la manifestation de l'esprit n'existait pas et que tout ce qui se manifestait, c'était pas l'esprit. Donc à ce moment-là, ben quand vous entendez parler de certaines
de guérisons miraculeuses, de délivrance, tout ça,
exactement,
trouble.
C'est exactement ça, ça trouble. On se pose la question, est-ce vraiment
Dieu
le Seigneur? Exactement. Et donc moi je le regardais. Et puis mon mari donc est parti dans une conférence et où il y avait un prophète qui était là, et d'ailleurs je n'avais jamais entendu parler du fait que des personnes pouvaient à notre époque prophétiser. Et donc ce prophète a libéré une parole dans la vie de mon époux, lui disant qu'en fait Dieu allait lui demander un grand sacrifice. Et donc moi, n'étant pas, ne sachant pas, ne connaissant pas à l'époque le Seigneur, etc. Et comme je le connais aujourd'hui, donc je me dis, mais ce sacrifice, c'est quoi? Donc il va devoir suivre Dieu, il va devoir me laisser et nous abandonner. Moi, c'est comme ça que
une panique qui s'est installée.
Voilà, c'est ça. Et un trouble vraiment dans mon âme. Et je me dis, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Et donc voyant mon époux aller de plus en plus loin dans cette recherche, et voyant que à chaque fois il me dit mais Dieu m'a parlé, etc., je dis mais moi Dieu ne me parle pas. Je prie et tout ça, mais Dieu ne me parle pas, je m'en sens même très éloignée. Et puis on avait une amie qui venait à la maison parfois. Elle était convertie vraiment. Elle était remplie de l'esprit.
Elle était enflammée.
Voilà, c'est ça. Et puis, mais c'était une chantre. Et nous sommes des chantres, donc avec mon époux. Donc, elle venait à la maison avec sa guitare, elle chantait. Et l'atmosphère vraiment changeait. Quelque chose se passait d'une manière tellement puissante. Je me disais, waouh, mais en fait, et puis je la voyais pleurer. Je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Mais ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Ça m'a interpellée. Et j'ai dit au Seigneur que moi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Je veux connaître cette profondeur. Et donc, le Seigneur a répondu. Et au fur et à mesure, le Seigneur a commencé à me montrer ça dans ta vie, ça t'éloigne de moi. Ça dans ta vie, ça t'éloigne de moi. Ça dans ta vie, ça t'éloigne de moi. Et donc au fur et à mesure, je voyais en fait que le Seigneur était en train de, plus je renonçais à des choses, plus je prenais conscience que telle et telle chose dans ma vie, c'était un péché qui m'éloignait du Seigneur. Parce que le Seigneur le dit, que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Et donc cette séparation là qu'on peut sentir parfois par rapport au Seigneur vient de notre péché. Sauf que lorsqu'on te dit péché, tu penses adultère, tu penses peut-être fornication, tu penses meurtre, mais tu ne penses pas aux petites choses que tu fais dans ton quotidien et qui déplaisent au Seigneur. Tu ne penses pas à l'orgueil, tu ne penses pas à la colère, au manque de pardon, à l'amertume que tu gardes dans ton cœur, à tellement de choses en fait qui sont devant le Seigneur des péchés. Et donc à ce moment-là, lorsque j'ai commencé vraiment à renoncer et à aller dans cette profondeur, le Seigneur a commencé à faire ce travail en moi. Et j'ai demandé au Seigneur, moi aussi je veux pouvoir vivre cette puissance. Moi aussi je veux pouvoir dire que le Seigneur m'a parlé. Et donc j'ai commencé à prendre ma Bible Et je n'avais jamais, enfin, je lisais comme certaines personnes.
Je connais, c'est roman, quoi.
Voilà.
Forme de roman.
Ou sinon, on récite ses psaumes, le psaume 23, psaume 1er, psaume 91.
Pour se protéger.
Voilà,
etc.
C'est ça. Ah, oui. Mais la profondeur dans la parole. Et donc, un jour, j'ai pris ma Bible, j'ai pris un cahier et j'ai dit au Seigneur, voilà, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu me parles. Mmh. Et donc, je mettais ma Bible, je prenais un verset, je prenais mon cahier, mon stylo.
Et puis,
j'écrivais ce qui venait dans mon esprit. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aller chercher dans la parole, à aller puiser dans la parole et où le Seigneur a commencé à me parler au travers de la parole. Et cette parole, elle est puissante, en fait. On ne réalise pas à quel point la parole transforme, comme le dit le Seigneur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais la parole renouvelle ton intelligence de manière tellement puissante, en fait, que tu ne vois pas les choses de la même façon.
Donc, et pendant que tu vis cette métamorphose dans ta vie, et tes parents te disent quoi? Est-ce que tu as contact avec eux?
Alors là, mes parents n'étaient pas... à ce moment-là, mes parents n'étaient pas tout prêts. Ma mère, par contre, c'est très intéressant que tu poses la question parce que ma mère vivait ici en Martinique, nous on était en France. Et donc nous on priait pour ma mère et finalement ce mouvement de l'esprit là était en train de se produire dans la famille. Ça veut dire que ma sœur aînée était aussi en train d'être touchée par l'esprit de manière puissante et même avant moi avait déjà changé en fait de vie mais de manière puissante.
Radicale.
Ça veut dire qu'elle a été à un concert de Total Place d'ailleurs dont je fais partie avec mon époux et donc dans ce concert elle a été touchée par l'esprit et donc elle est tombée sous la puissance de l'esprit, elle s'est relevée, elle était délivrée de la dépression alors qu'elle était au fond du gouffre. Et donc d'un autre côté moi je vivais ça de mon côté avec mon époux et puis un jour ma sœur reçoit une parole pour ma mère lui disant que le Seigneur te dit qu'il faut que tu te tournes vers lui. Alors c'était d'autres mots, mais en tout cas c'est ce que ça signifiait. Et ma mère aussi était dans une phase où elle s'était vraiment éloignée du Seigneur, où elle était vraiment, elle s'était rebellée en fait contre le Seigneur. Et quand cette parole est tombée dans le cœur de ma mère, ça a produit un effet instantané. Oui. Ça veut dire que de manière instantanée, elle a commencé en fait à être touchée en fait par le Seigneur, mais en même temps à être terriblement oppressée.
D'accord.
Oppressée en fait des oppressions démoniaques qui assez impressionnantes.
D'accord.
Et donc qui a produit vraiment quelque chose d'assez difficile dans la famille parce
donc,
que
donc dans ta famille à ce moment-là donc ta mère est touchée, ta sœur aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont visitées?
Eh bien en fait autour de ma mère à l'époque donc elle était accompagnée aussi de sa sœur qui la soutenait et donc eux de leur côté vivaient aussi ces réalités là spirituelles avec ceux qu'ils connaissaient en fait. Mais il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, nous n'avons pas la connaissance sur les choses spirituelles en tant que telles, l'autorité etc. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on est dans une ignorance qui fait que si le Seigneur ne s'était pas souvenu, eh bien on aurait péri comme le dit la parole, faute de connaissance.
Oui, mais on peut périr.
Voilà.
Oui.
Donc à ce moment-là, moi donc pendant que je suis là-bas, donc toujours en France, donc après on était en vacances aussi, on était parti en vacances en Guyane, et à ce moment-là, pendant que je suis dans ma chambre en train de prier, on était le 31 décembre, et alors ça devait être en 2008 si je me souviens bien, ou 2007, et donc pendant la nuit de la Saint-Sylvestre où tout le monde fait la fête, etc. Moi j'étais
c'était le réveillon, tout ça.
Voilà, moi j'étais dans la chambre en train d'invoquer le Seigneur, de demander au Seigneur touche-moi, et plus je dis au Seigneur j'appelle Jésus, et plus je dis Jésus, et plus ma bouche commence à parler, à dire des choses que je ne comprends pas.
Tu commences à parler en langue.
Exactement, quelque chose que je ne connais pas. Parce qu'il faut te rappeler que je ne venais pas d'une église réveillée.
D'accord. Et c'était une gêne, un embarras?
Pas du tout.
Étonnement?
Ou un questionnement, oui.
Oui.
Je dis, waouh!
Qu'est-ce que tu es en train de dire là?
Voilà. Et puis en même temps, tu vois, à ce moment-là, la chambre s'illumine. Donc ça veut dire que je sens comme un feu dans la chambre et ça et cette puissance qui vient sur mes lèvres et qui me fait comme ça parler, ça ne s'arrête pas. Et en même temps que je parle en langue, en même temps, je me dis, mince, si c'est pas le Seigneur, ça va être
c'est
compliqué.
Quoi, ça. Ouais.
Et puis finalement, le lendemain, lorsque je me réveille, je questionne encore le Seigneur. Est-ce que c'était vraiment toi? Et qu'est-ce qui se passe? je n'arrive plus à parler en langue.
Ah ouais.
J'essaye, comme j'ai fait la veille, mais il se passe rien.
Ouais, rien du tout.
Rien du tout. Et
est-ce que là tu as peur un peu du, il y a des questions forcément.
Oui, là je me dis bon, je n'arrive pas à le faire moi-même. Donc c'est, ça ne vient pas de moi, c'est sûr. Mmh,
certain.
Et puis donc quand je retourne dans le feu de la prière, eh bien ça revient cette fois-ci définitivement. Le Seigneur me fait comprendre, ça ne vient pas de toi. C'est pas toi qui l'a produit. Et il n'y a que moi en fait qui peut le faire.
Oui.
Et en fait ce baptême de l'esprit là fait que à partir de ce moment là quand je sors, je me rappelle très bien, j'ai senti dans les rues, je ne voyais plus des personnes qui passaient. Je voyais des âmes aimées du Seigneur. Je voyais en fait les brebis du Seigneur. Je voyais des personnes qui avaient besoin d'entendre une parole du Seigneur. Et donc le Seigneur a déposé vraiment cette compassion-là au travers de son esprit. Et ça, c'est puissant en fait.
C'est
pas quelque chose qu'on peut produire par soi-même. Il n'y a que le Seigneur qui peut le faire.
Et quand tu as vu ces choses-là, donc ton mari, comment ça se passe?
Mon mari, de son côté,
est-ce qu'il vit les mêmes choses? Est-ce qu'il...
Mon mari vit les mêmes choses, sauf que ce qui est très très drôle entre guillemets, c'est que mon mari, lui, était en recherche de recevoir le baptême de l'esprit.
Oui.
A contrario, je ne l'étais pas. Ouais. Parce que je n'avais pas encore compris, etc. Et donc je reçois le baptême avant lui.
Avant lui.
Oui.
Quand ton mari reçoit, quand une épouse reçoit le baptême avant le mari, est-ce qu'il n'y a pas une petite crise de jalousie?
Alors il faudrait lui demander crise de jalousie, non, mais je pense que ça l'a quand même interpellé. Ça l'a quand même interpellé. Parce que il s'est demandé mais qu'est-ce que je n'ai pas fait assez bien. Voilà. Mais c'est arrivé rapidement après, 2-3 mois après, il a également été baptisé seul dans un temps de prière aussi. Donc voilà, il y avait pas de compétition, hein. C'est vraiment lui, il aurait pu en témoigner parce qu'il m'en témoigne souvent du fait que il a été surtout béni de voir sa femme devenir une servante de Dieu. Parce que voilà, avant ce n'était pas la même personne.
Oui.
Et donc ça, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui le comble.
Mais quand je t'écoute, Laurent, je vois que tu avais quelque chose de très fort, de très sérieux avec Dieu. Et est-ce que tu connais d'autres personnes? Est-ce qu'en ce moment, il y a d'autres personnes qui vivent ces choses? Parce que on sent un feu sous toi et j'ai rarement vu ça en Martinique.
Ah oui?
Cette expérience-là, du moins ici à la radio, j'ai rarement entendu ça. Et ça s'est arrêté après? Est-ce que ça continue? Est-ce que le feu, il faut l'entretenir? Comment est-ce que tu vis ça?
Le feu,
maintenant.
Oui, le feu, ça s'entretient.
Oui.
Le feu, ça s'entretient et l'onction du Seigneur, c'est quelque chose de très précieux.
Oui.
Donc, ça veut dire que quand le Seigneur te donne quelque chose, et effectivement, souvent, on rencontre des personnes qui te disent qu'elles ont vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, et puis au fur et à mesure, elles se sont éloignées.
Oui.
Et le Seigneur dit dans Apocalypse, ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Oui.
Et c'est ça, le feu du premier amour, ce moment où tu rencontres quelqu'un, et il y a cet amour qui brûle en toi. Souvent, les réalités du quotidien, nos épreuves, tout
le combat qu'on mène,
voilà, etc.
Mais ça joue sur ce feu que tu as reçu.
À certains moments, ça peut faire que le feu, il peut descendre, ou on peut avoir l'impression que le feu ne brûle pas. Mais l'amour du Seigneur perdure. Donc ça veut dire que c'est un cheminement et que entre le moment où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le moment où on arrive jusqu'ici, plus d'une dizaine d'années plus tard, eh bien, entre-temps, on mûrit. On comprend que les choses du Seigneur ont un ordre. On comprend que ce que le Seigneur te donnait quand tu étais un bébé, qui était un peu de lait, aujourd'hui,
c'est un outil solide.
Ah oui, et c'est pas les mêmes exigences que le Seigneur a par rapport au moment où tu es né de nouveau. Et donc, oui, ce feu, il continue en fait. Oui, il y a eu des périodes difficiles, des périodes où j'ai eu l'impression vraiment de m'éloigner du Seigneur au point de me dire, mais est-ce que vraiment je vais réussir à revenir dans ce feu-là du premier amour?
Oui.
Mais bien sûr que oui, parce que le Seigneur est fidèle et que c'est lui qui nous a appelés, donc c'est lui qui le fera. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Et donc, lorsqu'on se tient sur la parole du Seigneur et qu'on se présente devant le Seigneur en vérité,
Oui.
Il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir marcher dans ce feu, revenir dans ce feu. Et j'ai la grâce aussi d'avoir des parents spirituels extraordinaires.
Oui.
Et d'ailleurs, je les salue, pasteur David et pasteur Jocelyne Goma, parce que c'est eux aussi qui m'aident vraiment dans cet accompagnement-là, spirituel
oui.
aussi.
Mm-hmm.
Parce que je sais que, notamment, et les deux d'ailleurs, mais mon père spirituel, lorsque j'ai... lorsqu'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je sens que là il y a besoin de travailler, je vais pas avoir de problème à aller le voir et dire voilà telle situation sur telle chose, je sais que j'ai un challenge, il faut que je prie. Et donc ça c'est important, parce qu'en fait souvent lorsque on avance avec le Seigneur, on peut développer une espèce de religiosité qui fait que finalement on est plus inquiet de ce que les gens vont penser que de ce que le Seigneur lui-même pense de nous.
Oui. Et ça, c'est pas une bonne chose.
C'est terrible.
Oui.
C'est terrible. Souviens-toi, en fait, que le Seigneur disait aux pharisiens qu'ils étaient des tombeaux blanchis. C'était quand même pas un compliment qu'il leur faisait. Ça veut dire que, voilà, on veut montrer quelque chose, mais au fond, on n'est pas ce qu'on montre.
Oui.
Et en fait, ça, ce n'est pas ce qui convient devant le Seigneur. Mieux vaut qu'on te voit tel que tu es, mais tu es vrai devant le Seigneur. Et donc, lorsque... et j'encourage chacun, en fait, à cela. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes... Tu me posais la question, est-ce qu'il y a en Martinique des personnes en feu ? Il y en a, c'est évident.
Oui.
Et, mais par contre, parfois, on oublie, en fait, ce côté-là de devoir venir au Seigneur avec en esprit et en vérité.
Oui.
Et donc ça c'est important. Présente-toi devant le Seigneur tel que tu es, et c'est lui qui t'aide en fait dans tes challenges pour pouvoir marcher avec lui et pouvoir être renouvelé à chaque instant.
D'accord. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes qui nous écoutent ce matin, qui sont là et qui voudraient vivre cette expérience que tu as vécue? Mais il y a tellement de combats dans cette vie, tellement de difficultés. Il y a les enfants, il y a le foyer. Est-ce qu'on peut encore arriver de nos jours, malgré tout notre train quotidien, arriver à retrouver ce premier amour ou bien expérimenter à nouveau ce premier amour, malgré les difficultés, les combats que nous aurons à mener?
La première chose que je te dirais, c'est que ce n'est ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et c'est vraiment par l'Esprit du Seigneur qu'on fait beaucoup de choses lorsque on a tous ces challenges-là. Oui, il y a des combats. Oui, il y a dans le quotidien beaucoup de choses. Tu sais, je me rappelle d'une expérience. Lorsque on a eu nos deux premiers enfants, ils n'ont qu'un an de différence.
Ah oui.
Et donc, à un moment donné, j'étais à la maison, je m'occupais d'eux. Et donc, ça veut dire que j'en avais un qui avait un an et puis un autre qui avait un mois.
Ouais, oui.
Et donc deux bébés, ça veut dire que quand un se réveille, l'autre, quand un dort, l'autre se réveille et vice versa. Et puis entre les deux, faut changer les couches, faut donner à manger,
oui,
etc.
Oui.
Dans cette période-là, je trouvais à peu près 10 à 15 minutes de temps à consacrer au Seigneur.
Oui.
Quotidiennement.
Tu te l'imposais.
Exactement. Et donc, j'avais ce moment-là, c'était après le repas du midi, c'était à peu près entre 14h et 14h15 environ.
Oui.
Le moment où je pouvais être avec le Seigneur.
Oui.
Et dans ce temps-là,
oui,
je priais, je lisais la parole, et le Seigneur me parlait.
Oui.
15 minutes.
15 minutes.
Ben en fait, c'est comme la veuve qui venait mettre sa pièce.
Oui.
C'est
le peu que tu as, tu lui donnes et en retour, tu reçois.
C'est ça. C'est pas une question de quantité, c'est une question
qualité.
De qualité. Tout simplement. Donc, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que tu aimes le Seigneur t'aime, il t'a aimé le premier.
Oui.
Donc, dans tes combats, ne cherche pas à résoudre toutes tes situations pour aller vers le Seigneur.
Oui.
Ne cherche pas à arrêter ce péché-là pour aller vers le Seigneur. Va d'abord vers le Seigneur, confesse-toi, et le Seigneur dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, quand tu arrives devant le Seigneur, tu lui présentes en fait tes situations.
Oui.
Et c'est lui qui te donne la force, qui te donne le secours pour que tu puisses avancer. Et donc, ça passe déjà premièrement par prendre un peu de temps pour prier, pour commencer.
Oui.
Et puis à lire la parole. Et puis, si tu as reçu le baptême, à parler en langue. Quand tu fais ta vaisselle, tu parles en langue.
Oui.
Ça te prend pas du temps.
Oui.
Parce que tu es déjà en train de faire quelque chose. Le Seigneur dit prier sans cesse. Ah bah, tu pries sans cesse. Tu roules pour aller au travail,
sur
la route.
Tu chantes.
Mais oui, au lieu de ressasser tes problèmes,
oui,
mets la louange. Chante les louanges du Seigneur.
Oui.
Fais, en fait, mets-toi dans cette atmosphère qui va changer, en fait, ton environnement. Mmh. Souvent, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est attaqué aussi par l'esprit de mort, parce qu'on vit des épreuves qui sont terrible, lourdes, qui sont difficiles, on a vraiment parfois cette lourdeur qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver la joie du Seigneur. Et, et c'est comme si nous-mêmes, on essaie de produire par nous-mêmes cette joie.
Oui.
Alors que cette joie nous vient du Seigneur. Mmh. Et ça m'amène à te parler, si tu le permets, d'une autre épreuve que j'ai vécue dans ma vie qui était vraiment terrible, puisqu'on a eu à perdre un de nos enfants, qui était un bébé, qui avait quelques mois. Mmh. Et pour une femme, c'est une, enfin, pas pour des parents, particulièrement pour une maman qui a porté cet enfant, c'est une épreuve qui est terrible.
Ouais.
Et donc, ce moment-là, en fait, où tu vis cette situation, personne ne peut te secourir.
Oui.
Personne ne peut, parmi toutes les personnes qui viennent.
On se retrouve seul, quoi.
Voilà. Toutes les personnes qui t'aiment et qui veulent te donner une parole, si ce n'est pas une parole qui vient du Seigneur qu'elles vont t'adresser, ces paroles-là ne vont pas produire d'impact en toi. Mmh. Et je sais que moi, dans cette période, c'est une période que j'ai vécue de manière très puissante avec le Seigneur.
Oui.
Très douloureuse, mais très puissante.
Oui.
Parce que j'ai expérimenté le fait qu'il n'y avait aucune situation, en fait, qui soit trop dure pour le Seigneur pour nous relever.
Mmh.
Aucune.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, lorsque j'ai vécu cela, je sais que le Seigneur m'a apporté avec le temps, parce que ce n'est pas quelque chose qui est instantané, c'est un processus aussi de guérison, mais le Seigneur, en fait, m'a donné une consolation telle que en fait, mon cœur a été réparé d'une manière puissante.
Oui, oui.
Et donc ça, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que le fait de pouvoir s'abandonner totalement au Seigneur. Et je vois beaucoup, beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de femmes qui s'inquiètent. Oui. Arrête de t'inquiéter. Mmh. Arrête de t'inquiéter parce que, comme tu peux le voir, ça ne produit aucun effet positif dans ta vie.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de ton ministère?
Oui.
Alors, parce qu'en Martinique, on sait que c'est délicat de parler de la femme.
Exactement, oui.
C'est conflictuel d'en parler.
C'est ça.
Ça peut même virer parfois à la confrontation.
Oui.
En arrivant ici, tu nous as dit un peu ce que tu es, Laurence, et que tu peux nous en parler.
Oui, alors je suis effectivement, j'ai été consacrée au ministère de pasteur en fin 2020.
Est-ce que ça a été facile d'être consacré pasteur quand on est une femme en Martinique?
Oui. Alors moi, de manière
personnelle. C'est sans tabou, Laurence.
Oui, oui, sans tabou. Et d'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, en ce sens que je n'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui a remis en question mon ministère de manière directe.
Mm-hmm.
Et donc, moi, je suis une fille spirituelle du pasteur David, du pasteur Jocelyne Goma, pardon. Et donc, je sais effectivement au travers d'elle que cela peut être controversé.
Mm-hmm.
C'est un non-sujet pour moi. C'est un non-sujet.
Oui.
Parce que c'est mon témoignage qui prime.
Oui.
Et ce qui fait que, en fait, le Seigneur dit que c'est une démonstration d'esprit et de puissance.
Oui.
C'est tout, en fait. Ce ne sont pas des combats de mots. Et donc, le Seigneur qui aime les femmes et qui lui-même était entouré, on voit, de toutes ces femmes qui ont été les premières, d'ailleurs, à aller annoncer qu'il était ressuscité.
Mmh.
Le Seigneur se sentait concerné par elles et par leur ministère. Donc, pour moi, aujourd'hui, tu vois, tu disais tout à l'heure qu'il y a peu d'ouvriers. Mmh. Eh bien, si maintenant on commence en plus à enlever dans les ouvriers, il va rester qui? Sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de femmes et de très peu d'hommes.
D'accord. Et au niveau de ton ministère, ici en Martinique, dans le concret, comment ça se passe?
Alors, ici, lorsque j'étais consacrée ici, donc j'étais toujours au centre du réveil chrétien. Et comme je l'ai dit, je suis premièrement une chantre.
Oui.
Et c'est vrai que mon ministère est étroitement attaché au chantre, au lévite du Seigneur. Et donc, c'est essentiellement sur ça aujourd'hui que porte en fait mon ministère, c'est-à-dire que je vais surtout encourager les lévites pour voir les aider eux-mêmes à rentrer dans leur identité, parce que beaucoup de chantres sont un peu perdus. Voilà, on aime le Seigneur, mais on aime chanter.
Oui.
Mais est-ce qu'on chante dans le monde? Est-ce qu'on peut chanter un peu dans le monde, un peu dans l'église?
Et qu'est-ce que tu leur dis lorsque quelqu'un te demande, est-ce que je peux faire chanter dans le monde un peu? Est-ce que je peux venir chanter avec Dieu après? Qu'est-ce que tu leur dis?
Aujourd'hui, ma conviction, c'est que lorsque le Seigneur nous donne d'être des chantres, quand on regarde dans la parole, c'était vraiment c'était carrément une tribu mise à part. Mmh, c'est oui. dire à quel
les
point
Lévites.
Les Lévites. Mmh. Et le Seigneur dit que il est la part des Lévites. Mmh, mmh. C'est quand même fort de voir à quel point, lorsque le Seigneur a doté ses chantres de son onction pour pouvoir porter sa gloire, ce n'est pas rien. Mmh. C'est une consécration, en fait, à pouvoir porter cette gloire. Et mmh. donc, aujourd'hui, toi, si tu es chantre et que tu veux amener cette puissance de Dieu dans l'Église au travers de ta louange, oui. tu as besoin d'être consacré au Seigneur. Oui. Et donc, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on sait bien que Lucifer était le chef de la louange mmh, dans mmh, le ciel. Mmh. Et donc, aujourd'hui, lorsque tu entends la musique, il y a deux types de musique. Il y en oui. a une qui glorifie le Seigneur et une qui ne glorifie pas le Seigneur. Et si oui. elle ne glorifie pas le Seigneur, il n'y a pas d'autre personne que l'ennemi. Donc, au travers de... Alors, ça ne va pas être dans la musique, on ne va pas dire gloire au diable.
À l'autre.
Ouais. Voilà. Mais oui. on va dire, par exemple, l'impureté, l'impudicité oui. Et toutes ces choses. C'est lui que c'est l'ennemi qui glorifie ces choses-là, puisque ce sont ses œuvres dont cette musique fait la promotion.
D'accord.
Donc voilà, tu veux faire la promotion?
Est-ce que la consécration est importante à ce niveau-là? Est-ce que vraiment il faut consacrer les musiciens, qu'on se consacre vraiment?
Oui, et d'ailleurs ce n'est pas
une mise à part.
C'est une mise à part, oui, et ce n'est pas, je le dis bien, ce n'est pas un jugement. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est à nous de dire. En tout cas, c'est ma conviction. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de dire toi, tu es consacré, toi, tu ne l'es pas. Chacun doit, comme je le disais tout à l'heure, être en vérité devant le Seigneur. Parfois, mmh. on a des chantres qui aiment le Seigneur et qui oui. sont dans des luttes. Mmh. Et le fait de venir en fait chanter les aide en fait à ne pas aussi s'éloigner, parce que parfois l'ennemi te fait voir ton péché. Tu es comme si tu es comme ça. Donc ne mets plus les pieds à l'église et tu fais quoi? Tu mets tout dans le monde parce oui. que tu ne te sens pas à la hauteur. D'accord. Et donc il faut faire attention de ne pas non plus rejeter les chantres sous prétexte qu'on ne les trouve pas encore assez consacrés. Ils ont besoin d'être accompagnés pour comprendre en fait que la consécration au Seigneur, que c'est tu disais que c'est important, ce n'est pas important, c'est indispensable.
D'accord.
Si on veut
c'est pour Dieu.
Ben oui, si on veut étendre le royaume de Dieu.
D'accord, Laurence, on fait une pause musicale pour
okay.
te souffler un peu. Maestro musique, notre jeune technicien va s'affairer pour mettre la musique.
Baptise le Saint-Esprit.
Voilà, donc toujours sur les 97.3 MHz, donc toujours avec Laurence. Nous allons parler maintenant, Laurence, de la raison pour laquelle tu es en Martinique actuellement.
Oui.
Et c'est important.
Oui, c'est important. Effectivement, dans mon parcours, j'ai pu aussi me former sur le plan professionnel. Et aujourd'hui, donc, j'ai créé une entreprise pour accompagner les mamans, particulièrement, à gérer leur maternité et l'équilibre avec leur vie professionnelle également.
Oui.
Et donc, cela m'amène à venir participer effectivement à un événement qui aura lieu à Madiana ce week-end, qui est le salon Timoun et compagnie.
Timoun et compagnie.
C'est ça. Et donc, un salon qui est consacré à l'enfant et à la famille. Et donc, j'ai été conviée par la marraine de cet événement qui est Patricia Tine de Parentalité éclairée pour pouvoir apporter un thème.
Oui.
Donc, qui est l'impact de l'épanouissement personnel sur l'harmonie familiale.
Oui.
En d'autres termes, comment, en tant que parent, en tant que maman, on doit appréhender son propre épanouissement en sachant que lorsqu'on est épanoui, on va produire quelque chose qui va faire du bien au reste de la famille. Et puis inversement, lorsqu'on se sent submergé, lorsque la charge mentale est au maximum, lorsqu'on a l'impression de ne pas y arriver, eh bien cela aussi va impacter le reste de la famille et donc va ralentir, si je puis dire ainsi, l'épanouissement de chacun, y compris des enfants.
D'accord. Comment t'es-tu orienté dans ce domaine-là ? Est-ce que c'est par rapport à ton expérience personnelle, à ton vécu personnel ? Est-ce que ça t'a aidé beaucoup ?
Oui, c'est deux choses. C'est premièrement le fait que le Seigneur m'ait lui-même conduit à me former pour être coach professionnel. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de coach
voilà.
un peu dans tous les sens. Et je ne suis pas, bien évidemment, je ne suis pas coach en développement personnel.
Ah ouais.
J'ai fait une formation de coach professionnel. Ça veut dire qu'on accompagne les personnes qui sont en entreprise, qui sont soit des salariés, soit des chefs d'entreprise, à pouvoir accompagner les changements professionnels.
Oui.
Et puis d'un autre côté, donc j'ai fait une autre formation en conseil en évolution professionnelle pour tout ce qui est reconversion, changement, évolution de carrière. Et d'un autre côté, j'ai aussi ma vie de maman, de famille nombreuse.
Justement, j'allais en parler. Comment tu fais pour concilier tout ça, ta vie professionnelle, ta vie de maman? Est-ce que c'est toujours évident, toujours facile?
Ce n'est pas toujours évident, comme pour toutes les mamans, comme pour tous les papas, pour tous les parents.
Mais tu y arrives.
Mais par la grâce de Dieu, j'y arrive.
Oui.
Et donc, effectivement, ça demande déjà une attention sur le fait de pouvoir soi-même savoir de quoi on a besoin pour pouvoir se sentir bien pour évoluer. Ce que j'ai pu constater, c'est que lorsqu'on devient notamment maman, on rentre dans une espèce de... alors, il va y avoir deux choses. Soit on va rentrer dans le côté où certaines mamans, elles ne savent pas trop quoi faire, elles n'avaient pas peut-être envie, donc elles vont un petit peu laisser les enfants comme ça grandir comme ils peuvent.
Oui.
Et puis continuer à vivre comme s'ils n'étaient pas là, ce qui est quand même quelque chose de grave.
Oui.
Et puis de l'autre côté, on va avoir les mamans qui s'oublient totalement.
Qui s'oublient elles-mêmes.
Ça veut dire qu'on développe une telle capacité à s'oublier, une telle abnégation, qu'on oublie qu'avant d'être maman, on était des femmes.
Oui.
Et qu'on avait reçu des dons, des talents, des projets. Et donc, le fait de se consacrer totalement à ses enfants, à sa famille...
On s'oublie soi-même.
On
s'appelle destructeur.
Et c'est, je crois que c'est vraiment destructeur. Pourquoi ? Parce que, finalement, en n'accomplissant pas les choses pour lesquelles on a été appelé, on finit par développer un sentiment, des fois d'aigreur, des fois aussi la perte de confiance. Parce qu'on finit par perdre totalement confiance en soi, du fait que comme on ne réalise pas des choses, on se sent, on se sent nul en fait. On a l'impression qu'on ne peut rien
faire.
On se dévalorise. Et donc le fait de faire les choses auxquelles on a été appelé, puisque on peut en parler librement dans le cadre, c'est-à-dire les choses auxquelles on a été appelé par le Seigneur lui-même, qui sont en toi, qui sont les dons, les talents et les choses que tu peux faire quand tu ne les fais pas. Et tu es en fait dans une espèce de situation parfois qui peut même amener au burn-out parce que tu n'es pas en train de t'épanouir. Et cela fait qu'après, tu vas te débattre un peu avec eux, essayer de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que la famille grandisse, mais sans vraiment le faire avec ton âme, dans le sens où tu n'es pas épanoui, en fait.
D'accord. Est-ce que toi, en tant que coach, tu crois vraiment à la femme pour tout mi-temps? Est-ce que tu peux, tu as une lecture, comment est-ce que tu conçois sa femme pour tout mi-temps en Martinique?
La femme pour tout mi-temps.
La femme joke, la femme.
Oui. C'est un concept, en fait, qui n'a, pour moi, n'a pas fait ses preuves, dans le sens où la femme pour tout mi-temps, ce n'est pas le modèle d'une femme heureuse.
Oui.
C'est le modèle d'une femme courageuse
qui se démerde, qui se débrouille.
Voilà. Oui. Mais qui vit dans la débrouille au détriment de tout ce qu'elle peut ressentir.
Oui.
De tout ce qu'elle peut avoir envie de faire.
Oui.
Et elle est, la femme pour tout mi-temps, elle est dans la survie.
Oui.
Et donc cette survie là, c'est pas ce qui est, je veux dire, c'est pas ce qui est bon pour une femme.
Oui.
De survivre.
Elle a besoin de plus.
La femme a besoin de s'épanouir. Elle a besoin de libérer tout ce qu'elle a en elle, comme je le disais. Mmh. Et donc ce n'est pas un modèle, en fait, qui rend la femme heureuse.
Oui. D'accord. Alors, tu interviens, tu nous as dit, à Fort-de-France ?
Oui, c'est ça, à Madiana. Donc, ce sera dimanche matin à 10h15. Mm-hmm. Et donc, sur ce thème-là, effectivement. Et puis, je prendrai aussi le temps de répondre à quelques questions. Mm-hmm. On pourra aussi me retrouver sur mon stand, Vas-y Maman,
oui.
Qui est aussi le nom de ma page Instagram. Vous pouvez aussi me suivre, oui. Donc, sur Instagram, sur ma page Vas-y Maman, où je partage un peu de mon quotidien, des conseils par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Et puis voilà.
D'accord. Est-ce que tu sens un engouement de la maman martiniquaise pour ces choses-là? Est-ce qu'elle désire apprendre?
Oui. Beaucoup de femmes se sentent vraiment, en tout cas, manifestent un intérêt pour cela.
Oui.
Parce que elles ont envie aussi de réussir. Elles ont envie de réussir, finalement, à être une bonne maman, qu'on a envie d'être une bonne maman.
Oui.
Et d'un autre côté, elles ont envie aussi de s'épanouir. Les deux sont légitimes.
Oui.
Et les deux sont ce qu'il faut, en fait. Oui. Il faut trouver cet équilibre-là. Et d'ailleurs, je disais plus qu'un équilibre, c'est une harmonie.
Oui.
Il faut trouver cette harmonie-là, réussir à la trouver chacune, pour pouvoir faire grandir aussi et avancer la société, parce qu'une femme épanouie, elle rayonne, en fait, sur tout son environnement.
D'accord. Merci beaucoup, Laurence, d'être passée nous voir jusqu'ici à Basse-Pointe. Mm-hmm. Ça n'a pas été trop loin pour toi.
Ça m'a permis de voir un petit peu le Nord, et j'aime beaucoup le Nord, donc c'était très bien.
D'accord. Merci beaucoup, Laurence. Je rappelle que nous te verrons dimanche.
Oui, c'est ça.
On va le redire à Madiana.
Oui, à Madiana. Donc,
on va donner les horaires à nouveau.
Donc, les horaires, alors je ne les ai pas en tête.
Je vais arriver hier soir.
En tout cas, moi, j'interviendrai dimanche matin à 10h15 et puis je serai donc présente sur toute la durée du salon, donc à mon stand. Et puis, comme je vous le disais, si vous voulez avoir les infos, vous pouvez aller sur l'Instagram de Timoun et compagnie, ou sinon sur le mien, donc Vas-y Maman. Et puis également sur Facebook. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations sur les réseaux sociaux.
D'accord, merci Laurence, et puis dimanche.
À dimanche.
Bon courage, je te bénisse.
Merci de m'avoir reçu, à bientôt.